Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre étude, notre série plutôt, j'ai choisi le Christ. Et le thème pour aujourd'hui sera « Arrivé à Golgotha ». Il est dit dans le psaume chapitre 71, verset 23, « Je te glorifierai par ma musique, mes lèvres t'acclameront de m'avoir libéré. » Je me pose parfois la question suivante. L'Église a-t-elle encore quelque chose de crédible à proposer aujourd'hui? Elle semble avoir perdu tout crédit auprès des masses. Je leur réponds, mes chers amis, nous autres chrétiens sommes les seuls à pouvoir offrir quelque chose de crédible et de valable au monde contemporain. Y a-t-il encore une seule idéologie qui ne soit pas discréditée? Existe-t-il vraiment une vérité à laquelle l'homme puisse absolument s'accrocher? Oui, où trouver des valeurs sûres auxquelles il puisse se cramponner? Je le répète, les chrétiens sont les seuls à pouvoir proposer au monde, un monde en faillite spirituelle, des solutions qui ont fait leur preuve. Mes interlocuteurs veulent en savoir davantage. Mais alors, que propose donc l'Église qui soit réellement valable? La question est pertinente. Qu'avons-nous à offrir qui soit digne de foi et d'intérêt? La mission des prêtres et des pasteurs se limite-t-elle à baptiser les nourrissons et à officier lors des mariages et des enterrements? L'Église chrétienne ne serait-elle connue que pour sa musique sublime et ses maximes profondes? Le peuple chrétien est dépositaire d'un message unique. Il est investi d'une fonction spéciale. Nos contemporains ont besoin d'entendre la parole de la croix pour reprendre une expression de l'apôtre Paul. Cette parole est la seule qui ne se déprécie jamais, la seule qui soit fiable et efficace en tout lieu et en tout temps. Nous devons en effet proclamer que Dieu a fait irruption dans notre monde en la personne de son Fils bien-aimé qui a été cloué sur la croix. Jamais le monde ne pourra effacer l'image du crucifié couronné d'épines. Nous devons encore proclamer que Dieu a agréé le sacrifice salvateur de son aimé Fils, et il en a donné une preuve évidente en ressuscitant son Fils bien-aimé d'entre les morts. Le comte de Zinzendorf, un noble formé à toutes les cours de l'Europe du XVIIIe siècle et fondateur de la communauté des frères moraves, s'est converti en contemplant le tableau du peintre italien Domenico Fetti, représentant le Christ en croix. Zinzendorf a été tellement bouleversé par cette peinture qu'il a manifesté toute sa vie un attachement particulier à l'homme de Golgotha. Le comte déclara que rien n'avait autant ému son cœur que l'homme cloué sur la croix de Golgotha. Ces paroles prennent un relief particulier quand on sait que celui qui les a prononcées n'est pas un quidam quelconque, mais un homme cultivé qui avait beaucoup voyagé, appris quantité de choses et côtoyé les sommités intellectuelles de son temps. Oui, des millions de personnes manifestent aujourd'hui le même attachement à l'homme de Golgotha. L'occasion vous est offerte de vous joindre à eux maintenant. Le verset que nous avons placé en tête de cette méditation cadre parfaitement avec la contemplation du Sauveur crucifié. On peut imaginer le personnage du psaume cité gravissant la colline de Golgotha et s'arrêtant au pied de la croix en prononçant ces mots. « Mes lèvres t'acclameront de m'avoir libéré. » Arrivé à Golgotha, tel est le titre que j'ai donné à cette méditation. Rappelez-vous, mon titre, arrivé à Golgotha. Et j'aimerais maintenant, en votre compagnie, écouter ce que le pèlerin se propose de nous dire au pied de cette croix. On a de la peine de le croire, mais bien des personnes sont chrétiens, justement pour ne pas devoir vivre trop près de Dieu. Leur christianisme les protège en quelque sorte de Dieu. Le psalmiste est résolument engagé aux côtés de Dieu, mais il est momentanément troublé. Ces paroles sont le reflet de ce désarroi intermittent. Il est capable de dire « Seigneur, tu es ma forteresse ». Et aussitôt après de lancer ce cri, « Mon Dieu, fais-moi échapper à la main du méchant. » À un autre moment, il déclare « Je suis pour beaucoup comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. » Et peu après, il dira, et il gémit même, comme s'il n'avait plus tout à fait confiance. Et il dit, « Quand mes forces défaillent, ne m'abandonne pas, je t'en prie, Seigneur. » Et puis à nouveau, le cœur joyeux et plein de foi, il s'écrie, « Je m'avancerai avec des exploits, Seigneur mon Dieu, et je t'appellerai, je rappellerai également ta justice, oui, la tienne seule, car c'est la seule justice qui existe. » Mais au verset suivant, il dira, et il s'exprime en quelque sorte ainsi, « Jusque dans la vieillesse, aux cheveux blancs, ô mon Seigneur, ne m'abandonne pas. » Oui, la parole de ce psaume reflète les hauts et les bas, la vie en dents de scie, les victoires et les défaites, les élans de foi et les doutes qui caractérisent la vie d'un chrétien. C'est une lutte implacable qui s'est engagée en nous, entre l'ardeur joyeuse et le découragement, entre l'enthousiasme et la dépression. Et ces attitudes extrêmes ne sont jamais très éloignées l'une de l'autre. Le psalmiste s'est élancé avec le dynamisme de Dieu et maintenant le voilà se frayant péniblement son chemin dans les taillis, et dans quelques instants, il prendra son envol comme l'aigle pour se retrouver un peu plus tard plaqué au sol, comme si ses ailes s'étaient carrément brisées. Oui, un de nos cantiques exprime bien la puissance qui se dégage de la croix. Ce cantique dit ceci: « Veux-tu marcher, toujours pur et triomphant? La force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Jésus-Christ. » Le théologien suisse Fischer affirme ceci: la croix de Jésus est au centre de l'histoire. Elle agit aussi bien dans le sens de l'histoire que rétrospectivement. Les fidèles de l'ancienne alliance sont au bénéfice du sang de Christ. Et la fin du psaume 71 ou 71 revêt un intérêt particulier. Au terme de multiples combats, le psalmiste arrive à Golgotha, au pied de la croix de Jésus, l'emblème même du salut. Et là, il ne se perd, ou si vous voulez, il ne se perd pas en explications dogmatiques, curieuses et compliquées sur le pourquoi et le comment de la mort du Fils de Dieu, mais pas du tout. Il ne cherche pas à savoir si cette mort est efficace pour les humains encore à naître. Et en Ésaïe, chapitre 53, le prophète inspiré envisage la mort du serviteur sous l'angle théologique. Il porte nos péchés et il meurt à notre place. Il justifie beaucoup de pécheurs. Rien de semblable dans le psaume 71. Le psalmiste semble dire: j'arrive et tout devient lumineux. Je fais tout mon possible pour comprendre la portée des images que la Bible utilise, et parfois sans y parvenir entièrement. Oui, qui peut prétendre avoir saisi la signification des mots rédemption, substitution, réconciliation et propitiation, entre autres? Et qui pourra m'expliquer comment Dieu peut mourir pour moi? Mais ma relative ignorance de ces réalités ne m'empêche cependant pas d'en vivre. Oui, je peux me placer à côté du psalmiste et redire avec lui: mes lèvres t'acclament de m'avoir libéré. Je peux me tenir aux côtés du comte Zinzendorf devant le tableau du crucifié et méditer avec lui les paroles inscrites au bas: voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que fais-tu pour moi? Si quelqu'un objecte que c'est un problème théologique qui me dépasse, je lui répondrai: peu importe, puisque j'en vis. Je ne suis pas plus expert devant l'insondable mystère de la croix que devant les mystères de l'électricité. Oh non! Mes chers amis, que signifie vraiment être arrivé à Golgotha? Les paroles du psalmiste soulignent l'unité de notre personnalité. Le texte dit littéralement « Mes lèvres t'acclameront, ainsi que mon âme que tu as libérée ». L'association des lèvres et de l'âme n'est-elle pas merveilleuse? N'est-ce pas étrange que l'âme soit associée aux lèvres? Ce passage me confirme, si besoin était, que la Bible est vraiment un livre qui traite de vérités profondes d'une manière perspicace et juste. Les mots sont choisis par Dieu. Ceux-là m'ont enseigné qu'il existe un lien mystérieux entre mon être intérieur, appelez-le l'âme ou esprit, peu importe, et mes lèvres ou ma bouche. Et un sage avait déclaré « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur est le siège de la vie intérieure. » On pourrait donc paraphraser et dire que de l'abondance de l'âme, la bouche parle. Dans les rares moments où l'homme est foncièrement sincère et honnête avec lui-même, ses lèvres profèrent des choses qu'autrement elles ne diraient jamais. La chute a laissé sa marque sur ce lien, car avant l'introduction du péché, âme et lèvres étaient absolument unanimes, les dernières exprimant toujours, absolument toujours, ce que pensait la première. Mais aujourd'hui, l'âme et la bouche ne parlent plus le même langage. C'est un thème que nos hommes politiques feraient bien de méditer. Disent-ils réellement ce qu'ils pensent et pensent-ils vraiment ce qu'ils disent? Ils promettent d'agir pour le bien du peuple, mais ne faut-il pas comprendre qu'ils visent simplement un fauteuil ministériel? Ne leur jetons pas la pierre et revenons à nous-mêmes. Je lisais récemment dans un journal qu'un commerçant s'était suicidé à cause de difficultés financièrement insurpensables ou, si vous voulez, insurmontables. Et j'en connaissais moi-même, personnellement, de ceux-là. Mais la veille de sa mort, il avait tout de même festoyé avec des amis. Curieux, n'est-ce pas? Voyez-vous, là, on voit que les lèvres prononcent des paroles d'insouciance et de gaieté, tandis que le cœur est assailli de très sombres pensées et même de désespoir. Tout à l'heure, après la réunion, nous allons tous nous retrouver dehors et nous saluer. Nous allons échanger des propos calmes, polis et même très corrects. Sont-ils vraiment le reflet de ce qui se passe dans nos âmes? Je n'en suis pas tellement sûr. Que de passion se déchaîne dans nos cœurs? La haine, l'impiété, l'envie, le doute empoisonnent notre vie intérieure. Et pourtant, nous serions capables de donner de nous-mêmes une image de pondération, de solidité, de courtoisie et même de piété, rien que par nos paroles. Ce divorce entre les pensées et les paroles, entre l'âme et les lèvres, c'est la marque du monde déchu. Or, que déclare en substance le psalmiste ? Lorsque je suis parvenu au pied de la croix de Christ, cette division de ma personnalité a pris fin. Mes lèvres et mon âme se retrouvent en harmonie. Mes paroles et mes pensées sont en symphonie. Ma rencontre avec le Sauveur crucifié, permet de nouveau à mes lèvres de traduire parfaitement ce que ressent mon âme. Ceci est un signe des temps. Un pasteur m'a confié qu'il reçoit ainsi que ses collègues des textes tout préparés pour les cultes par leur hiérarchie. Et voyez-vous, ainsi, ils sont parfois contraints de dire autre chose que leur cœur, âme, esprit aimerait dire. Ceci pour éviter de perdre le peu de gens qui se rendent au culte le dimanche. Quelqu'un parmi vous est-il encore dans les liens du péché? Nourrit-il des pensées de haine ou d'impureté qu'il n'ose avouer à personne? Qu'il aille vers le Sauveur en croix, à qui il peut montrer ses chaînes et parler des liens qui l'en serrent. Le Sauveur lui dira « Tourne-toi vers moi, et je te libérerai de tous tes asservissements. » Dans le monde, nous cherchons toujours à excuser ou à minimiser nos fautes près de la croix. Là, nous pouvons dire absolument à haute voix ce que notre conscience nous murmure depuis toujours. J'ai péché. Je peux désigner mes péchés par leur nom. Oh oui, je n'ai plus à faire l'hypocrite devant la croix de Christ, c'est-à-dire jouer un rôle qui n'est pas tout à fait le mien. Devant la croix de Christ, je peux paraître ce que je suis, un simple pécheur et un pécheur perdu. Je le reconnais et je le proclame. Alors Christ me répond, « Mon sang te purifie de tout péché. » Même quand notre cœur est rongé d'inquiétude et paralysé par la crainte, nous devons continuer à donner l'impression de sérénité et de paix. Des satellites militaires passent constamment au-dessous, plutôt au-dessus de nos têtes. Et oui, j'ai bien dit au-dessus de nos têtes, et parfois assez lourdes menaces, me semble-t-il. Mais, curieusement, la plupart d'entre nous font que de sourire, car il suffit que le président ou le premier ministre esquisse un sourire pour que toute la nation l'imite simplement et sourit aussi, alors que les cœurs sont parfois tristes et sont aux prises avec des grosses difficultés et même parfois des angoisses. Devant la croix de Christ, j'ai toute la liberté de déposer mes fardeaux et de me présenter comme un enfant craintif auquel le Seigneur nous dit, il me dit, « Mais ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, et de ce fait, tu m'appartiens. J'ai gravé ton nom sur mes mains. N'est-ce pas prodigieux qu'en face du Sauveur crucifié, notre personnalité déchirée puisse retrouver son unité. Mes lèvres lui disent ce qu'éprouve mon âme. Et lorsque il aura guéri mon âme, mes lèvres le loueront. N'aurais-je pas raison d'affirmer que la croix de Christ est la seule thérapeutique psychiatrique susceptible de me venir en aide et de répondre à tous mes besoins. Chers amis, arriver à Golgotha, c'est vraiment la porte de la joie. Oui, arriver à Golgotha s'accompagne de la découverte de la joie. C'est ça l'arrivée à Golgotha. Elle s'accompagne de la joie. Et à l'instant même où le pèlerin parvient au pied de la croix, il peut brandir l'étendard de la joie. Car des chrétiens amers ne sont pas des chrétiens. Il existe des choses incompatibles entre elles. L'amertume et la condition de chrétiens en sont, en effet, nous avons souvent de la tristesse et de l'amertume. Même dans la tourmente, la joie ne devrait pas abandonner le chrétien. Voyez-vous, j'ai toujours été assez ému de constater que même sur leur lit de mort, eh bien, il y a des chrétiens qui respiraient une joie absolument sereine. Et cela peut s'expliquer, car celui qui appartient à Christ et qui a reçu le pardon des péchés par son sang précieux, celui-là ne meurt pas au fait. Il s'endort simplement dans les bras de son Sauveur mort pour lui et désormais éternellement vivant. Dans l'évangile de saint Luc, chapitre 2, verset 41 à 50, nous avons là des parents qui recherchent leur fils. Relisez calmement, tranquillement, quand vous en avez le temps, l'évangile de saint Luc, chapitre 2, verset 41 à 50. C'est très intéressant. Et dans ce passage biblique, nous méditerons l'extrait suivant. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Et Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? » Dans le passage que nous avons mentionné, deux personnes, Marie et Joseph, viennent d'accomplir leurs devoirs religieux à l'occasion de la Pâque juive. Ils repoussent ce chemin vers Jérusalem, à la recherche de leur fils de 12 ans. Leur fils de 12 ans qu'ils ont cru qu'il était avec eux dans la caravane du retour, alors qu'il était simplement resté dans la grande ville. Et en ces jours de fête, Jérusalem devait offrir le spectacle d'un immense fatras. La recherche des deux parents est finalement couronné de succès. Il découvre Jésus au milieu des érudits de son temps, scribes anciens et docteurs de la loi, autrement dit, les théologiens d'Israël. L'enfant leur répond et les interroge à son tour. En sa véritable qualité de fils de Dieu, à cet instant, Marie et Joseph se rendent compte que Jésus n'est pas un enfant comme les autres. Il est le fils de Dieu. Quand on le rencontre comme un enfant de 12 ans ou comme le Seigneur des Seigneurs, cela n'a qu'une importance relative et ne modifie pas les leçons qu'on peut en tirer. Une rencontre avec Jésus-Christ provoque toujours un choc et plonge dans la consternation. Et c'est pourquoi les parents sont saisis d'étonnement. Oh, combien je les comprends. Mettez-vous un peu à leur place. Ils sont à la recherche de leur fils qui semble avoir fait une fugue. Tandis qu'ils interrogent des connaissances, qu'ils suivaient les pistes qui s'avéraient fausses, ils ont souvent dû se dire « Quel chenapan ! Attends un peu qu'on te retrouve !» Au troisième jour de leur recherche, eh bien, les parents de Jésus aboutissent dans une salle du temple de Jérusalem. Là, il y a une foule considérable qui s'y est rassemblée. J'imagine Marie et Joseph essayant de se frayer un passage dans cette foule silencieuse pour tenter de parvenir jusqu'au premier rang. Que de fois ils ont dû croiser le regard courroucé des gens et entendre dire « Chut !» Enfin, ils réussissent finalement, tant bien que mal, à se faufiler jusque devant. Que découvrent-ils alors? Qu'est-ce qu'ils ont découvert, chers amis? Là, assis en rond, les anciens, les scribes et les interprètes de la loi, et au milieu d'eux, un garçon de 12 ans. C'est le fils qu'ils cherchent depuis 3 jours. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Joseph et Marie se sentent soudain solidaires de la foule au moment où l'enfant prend la parole. Comme les autres auditeurs, ils ont dû se dire « Mais ce garçon n'est pas un surdoué qui distille des réflexions théologiques de son cru, mais il parle de Dieu, comme s'il le connaissait intimement et personnellement. Il éclaire le chemin qui mène à lui. » La foule a le sentiment que le jeune garçon ne parle pas comme les scribes et les docteurs de la loi. Contrairement à eux, il ne livre pas des maximes théologiques auxquelles personne ne comprend rien. Mais il parle vrai. Il parle d'une vérité limpide comme le cristal. Plus d'une personne a dû penser « Mais ce garçon ne me ressemble pas. » Quand il prend la parole, j'ai l'impression d'entendre mugir les sources de l'eau de la vie. Ces gens ont pressenti d'une manière encore confuse ce que Christ dira plus tard de lui-même. « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Au premier rang de la foule, les parents de Christ partagent les mêmes réactions. Ils furent saisis d'étonnement. Ce devait être merveilleux d'écouter le jeune garçon. quand il parlait de son Père céleste, il parlait d'une réalité profonde pour lui. Mais pour les auditeurs, c'était une nouveauté, presque une révolution. Je me suis amusé un jour à compter combien de fois l'expression « saisie d'étonnement » revient dans les quatre évangiles. Environ 35 fois. À 35 fois, des individus ou des groupes de personnes ont été saisis d'étonnement ou frappés de stupeur en présence de Jésus-Christ. Cela a commencé alors que celui-ci avait à peine 12 ans. Plus tard, Jésus-Christ est allé sur une montagne d'où il a donné les exhortations connues sous le nom de « Sermon sur la montagne ». À la fin de son discours, les foules étaient frappées, littéralement hors d'elles-mêmes, car la raison de cet étonnement était flagrante. Jésus-Christ les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme leur scribe, mais une parole qui nous atteint en plein fouet. Réalisez le sermon sur la montagne dans Saint Matthieu, chapitre 5 à 7. Que de fois vous aurez l'impression d'être mis à nu et à découvert. Il est dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Et il est également dit « Aimez vos ennemis et heureux les pauvres en esprit. » De telles exigences nous ôtent toute possibilité de justification. Vous vous sentez petit précisément comme Dieu veut que vous soyez à vos propres yeux. Tout en exposant sa loi, Jésus-Christ ouvrait les portes de la grâce divine. Combien je comprends la stupéfaction des foules. Comme elles, je suis saisi d'étonnement. Le jour où Jésus-Christ déclara au paralytique ou à la prostituée, « Tes péchés sont pardonnés. » Les témoins de cette parole autoritaire furent saisis d'étonnement, eux aussi. Qui peut tenir de tels propos? Se peut-il qu'un homme entende semblables promesses et puisse se dire « Mes péchés sont pardonnés ?» Ne faut-il pas journellement faire tous ces efforts pour plaire à Dieu afin d'entendre « Oui, tes péchés sont pardonnés » et pouvoir donner libre cours à la joie d'avoir été justifié par Dieu? Les évangiles racontent comment Jésus-Christ chassait les démons. La foule présente à tous ces miracles était carrément saisie d'étonnement. Aujourd'hui, les hommes sourient devant de tels récits sous prétexte que les démons n'existent pas, que ce sont des légendes. Or, à l'instant même où ces personnes ont affaire à Christ, elles découvrent qu'il existe de formidables puissances démoniaques auxquelles l'homme peut se trouver assujetti. Mais avec une allégresse qui n'a d'égal que leur étonnement, ils apprennent aussi que Christ est encore plus puissant. Et ils reconnaissent alors que jusqu'à maintenant, ils ont vécu d'une manière superficielle et qu'ils ont ignoré totalement la réalité des puissances mauvaises. J'admets que des personnes puissent être saisies d'étonnement lorsque elles découvrent la réalité inévitable, invisible, en présence de Christ. Les foules étaient, comme nous le savons, saisies d'étonnement lorsque Jésus-Christ ressuscitait carrément les morts. Et ils étaient saisis d'étonnement lorsque il permit à un lépreux impur de le toucher. Ils étaient saisis d'étonnement lorsque le soleil a été voilé et que la terre a tremblé tandis que Jésus-Christ agonisait sur la croix. Les femmes furent saisies d'étonnement lorsqu'au matin de Pâques, elles trouvèrent le tombeau vide et des anges qui leur dirent « Il est ressuscité comme il l'avait dit ». Après ce survol biblique, revenons un peu à notre époque et à notre propre expérience de la vie chrétienne. Quelle impression donnons-nous ? Quelle impression nos églises font-elles sur la société ? Considérez le déroulement des cultes. Considérez comment se déroule votre propre vie. Découvrez-vous quoi que ce soit qui puisse susciter un étonnement comparable à celui des contemporains de Jésus-Christ. Voyez-vous, quand le Nouveau Testament parle de l'étonnement des foules en présence de Jésus-Christ, il ne s'agit pas de l'effroi, car si je peux me permettre de la diviser en deux composantes, je dirais qu'elle est pour 30% l'étonnement de l'homme en face de la révélation de sa propre personne placée dans la lumière de Christ, et pour 70% l'allégresse qui fait naître la découverte du salut de Dieu accordé à un misérable pécheur. Comment ne pas être saisi d'étonnement devant un tel prodige si bénéfique pour nous ? Quand on rencontre Jésus-Christ, il est inévitable qu'une question vienne à l'esprit. Si tel n'était pas le cas pour vous, vous seriez en droit de vous demander si vous avez déjà eu affaire à Jésus-Christ. Et d'instinct, Marie pose à Jésus la question suivante. « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Cette femme m'apparaît comme une personne qui vient d'échapper à un formidable tremblement de terre. Le sol a été ébranlé sous ses pieds. Elle cherche désespérément quelque chose à quoi se raccrocher. Elle cherchait son fils et retrouve le Fils de Dieu qui parle avec autorité de son Père céleste. Où trouver en cet instant un appui dans son désarroi? Marie ne trouve rien de mieux que de faire revivre le passé et ses prérogatives de mère d'un enfant qui s'est éloigné du foyer de ses parents. Pourquoi nous as-tu fait cela? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Et à cette question, elle n'obtient pas de réponse satisfaisante. Bien qu'elle fût la mère de Jésus, Marie a dû se mettre au rang de tous ceux qui veulent appartenir à Christ et apprendre qu'on ne s'approprie pas Christ de la sorte. Et cette question, pourquoi nous as-tu fait cela? Je l'ai souvent posé au Seigneur moi-même, quand il m'a fait traverser des moments de détresse, je lui ai demandé « Pourquoi m'as-tu fait cela ? Tu sais que je supporte si mal des épreuves pénibles et que mes nerfs sont si peu solides. Oui, pourquoi m'as-tu fait cela ?» C'est ce que j'ai demandé à Jésus-Christ lorsque il m'a tout simplement laissé tomber et que je suis devenu la proie du péché. Je voulais être délivré de la vieille nature qui se manifestait à nouveau. Et le Seigneur, je lui ai dit, pourquoi m'as-tu fait cela? Et pourquoi m'as-tu laissé faire? Eh bien oui, c'est ce qu'a aussi demandé l'apôtre Pierre au moment où il a renié son maître. Rappelez-vous, pourquoi m'as-tu fait cela? Ai-je crié lorsque, après avoir annoncé l'évangile et espéré une grande bénédiction, j'étais totalement abattu et chargé d'une lourde croix? Que personne ne se fasse des illusions. Jésus-Christ marche devant tous ceux qui lui appartiennent et il les conduit à Golgotha où se dresse la croix. Et celle-ci comporte une barre transversale qui est comme un trait placé en travers de nos désirs personnels, de nos conceptions et de la religion faite à notre mesure. J'imagine sans peine que tout au long de sa vie, Marie a souvent posé en silence la question « Pourquoi m'as-tu fait cela ?» Lorsque Jésus-Christ fut devenu homme, Marie avait encore voulu user abusivement de ses droits et ramener son fils aîné à la maison. Accompagnée de ses autres enfants plus jeunes, elle s'était rendue là où Jésus enseignait la foule. Celle-ci était si dense que Marie ne parvint pas à s'approcher de Jésus. Aussi lui fit-elle dire « Ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent. » Et Jésus répond simplement « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est avec ces paroles dans le cœur que Marie a dû regagner sa maison en pensant une fois de plus « Mon fils, mais pourquoi m'as-tu fait cela ?» Plus tard, au pied de la croix, Marie contemple son fils qui se meurt dans d'atroces souffrances sous un soleil de plomb. Fallait-il vraiment en arriver là? Pourquoi m'as-tu fait cela, mon fils? Telle était la question qui a continuellement transpercé son cœur. Ah oui, puisque nous tous, puissions-nous tous, chers amis, nous placer ensemble aux côtés de Marie, là, sur le calvaire, et dire au Seigneur Jésus, pourquoi as-tu laissé faire cela? La Bible déclare que tu es mort pour chacun d'entre nous. Pourquoi l'as-tu fait pour moi, pauvre pécheur? Alors l'homme, couronné d'épines, répond, j'ai vu que tu étais sous le coup de la juste colère de Dieu, et ceci à cause de ta méchanceté naturelle. Or, je t'aime, et je ne veux pas que tu ailles en enfer. Et c'est pourquoi j'ai subi à ta place la colère de Dieu et le jugement qui frappe ton péché. Je l'ai fait tout simplement par amour pour toi. Quiconque a entendu dans son cœur cette réponse n'a plus de questions à poser. Il se prosterne et adore, oui, au comble de la joie, d'avoir un tel sauveur. Maintenant, avant de terminer notre étude, nous pouvons mieux comprendre que par sa réponse, Jésus-Christ indique avec une étonnante clarté qu'il est et qui il est et d'où il vient. Oui, Dieu est celui qui est. Il est éternellement le même. Il est essentiel de ne pas faire reposer notre foi chrétienne sur simplement un vague sentimentalisme, mais carrément sur la lumière qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, dès l'âge de 12 ans, Jésus met les choses au clair en révélant sans la moindre ambiguïté son identité et son origine. Quand Marie, sur le ton du reproche, dit à Jésus « Ton père et moi te cherchons avec angoisse », elle pense à Joseph, qui est le père nourricier de Jésus, et Jésus semble lui répondre « Non, mon père ne m'a pas cherché, car j'étais constamment près de lui. » Oui, mon Père, c'est Yahvé l'Éternel, c'est Elohim, c'est vraiment le Dieu de l'univers. Et j'étais dans sa maison, j'étais dans ce temple qui lui est consacré. Ne faut-il pas que je m'occupe de ses affaires? En somme, Jésus-Christ vient de s'identifier formellement. Il dit « Je suis le Fils de Dieu ». A-t-il pressenti que 2000 ans plus tard, des simples mortels et des savants, des laïcs et des théologiens, mettront sa qualité de Fils de Dieu en doute? Ils le font aujourd'hui plus que jamais, et ceux qui le font doivent aussi aller jusqu'au bout de leur raisonnement et affirmer que Jésus-Christ était soit un illuminé, soit un charlatan. En effet, dès l'âge de 12 ans et jusqu'à la résurrection, il a déclaré qu'il était d'en haut et nous sommes d'en bas. Parce que, étant le Fils du Dieu vivant, il tirait son origine autrement que nous. Ou bien Jésus-Christ descend d'un autre monde, ou bien depuis l'âge de 12 ans, il est fou. « Je me suis occupé des affaires de mon père », répondit-il. C'est ce qu'il a répondu. Simplement, il a répondu « Je suis celui qui est le fils de mon père ». Il a dit ça aussi hardiment à sa mère. Pour ma part, je suis infiniment reconnaissant au Seigneur d'avoir si clairement décliné son identité et son origine, bien avant, oh oui, bien avant le début de son ministère terrestre et tout au long de celui-ci. Si cette parole prononcée dans le temple, qui est l'une des premières paroles de Jésus, où il mentionne son Père céleste, et ceci, si c'est l'une des dernières qu'il le fera également, quand il a dit par exemple « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je voudrais vous redire cette phrase tranquillement pour qu'elle entre bien dans nos cœurs. Si cette parole qu'il a prononcée dans le temple, qui est l'une des premières paroles de Jésus, où il mentionne clairement son Père céleste. Oui, son Père céleste. Et ensuite l'une des dernières le fera également quand il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Quelqu'un me disait récemment « Nous sommes tous enfants de Dieu, absolument tous ». Et même, vous savez bien, on chante à la fête de la bière de Munich « Wir gehen alle, alle in den Himmel ». Nous allons tous au ciel. Qu'est-ce que c'est merveilleux. C'est presque possible de le croire. Mais malheureusement, c'est pas vrai. Non, je crains que ceux qui affirment pareille chose ne vivent carrément d'une illusion tragique et que leurs yeux s'ouvriront au jour du jugement. Voyez-vous, lorsque Dieu les mettra en face de leurs péchés, si vous lui dites « Père », alors reconnaissez-lui les droits inhérents à cette fonction, notamment les droits à votre obéissance, c'est la moindre des choses, non? Donc, ce n'est pas sûr que nous sommes tous ses enfants et que nous irons tous tout droit dans le ciel. Grâce à Jésus-Christ, je peux devenir un enfant de Dieu. Et je souhaite que vous partagiez tous ce privilège inouï. N'oublions cependant jamais que Jésus-Christ est d'en haut et nous d'en bas. Puisqu'il a déclaré être d'en haut, je sais qu'il est celui qui a révélé le Dieu inaccessible. Dieu est invisible, mais il s'est manifesté en Jésus-Christ. Je sais désormais que Jésus-Christ est le grand prêtre Melchisédek, choisi par Dieu, qui a offert son corps en sacrifice sur la croix du calvaire, pour obtenir le pardon de mes péchés. Il est aussi le bon berger qui nous appelle de sa voix puissante et nous garde dans sa forte main. Et je crois tout cela parce que Jésus-Christ est d'en haut, de là d'où vient la lumière. Combien j'aimerais que tous, vous puissiez, chers amis, vous appropriez ces paroles. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie et chantez de tout votre cœur ces paroles d'un cantique ancien qui dit « L'Éternel est ma part, mon salut, mon breuvage. Il a fixé mon lot dans un bel héritage. Mon âme, égaye-toi, réjouis-toi mon cœur. » Entonne un chant d'amour, Jésus-Christ est ton sauveur. Qu'il est bon de t'avoir, Jésus-Christ, pour sacrifice, pour bouclier, pour roi, pour soleil, pour justice. Quelle est douce la paix dont tu remplis le cœur. Mon âme, égaye-toi, Jésus-Christ est ton sauveur. Chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière, mais avant, je voudrais vous donner deux petites anecdotes très intéressantes et qui vont clore cette étude merveilleusement. Oui, quel est le plus grand besoin de l'homme? Un homme peut avoir une vie difficile et heureux être heureux malgré tout. Il peut avoir faim et être quand même content. Il peut manquer de vêtements et tout de même se réjouir. Mais si au fond de lui-même, il n'est pas en contact avec son Créateur, l'essentiel lui fait défaut, car c'est ce qu'il y a de meilleur dans cette vie et dans la vie à venir. Que pourrait-il y avoir de pire pour un homme que de mener sa course et sa courte vie surtout, la course qui est bientôt terminée, cette courte vie ici-bas, sans Dieu, sans espérance et même sans aucun but. Oui, en effet, il y a tant de braves gens sur cette terre, disent beaucoup de personnes. De personnes qui sont gentilles, aimables, généreuses, honnêtes et droites. La bonté même. Rien ne leur paraît trop dur quand il s'agit de rendre service à quelqu'un. Ils sont prêts à se donner, à se sacrifier pour témoigner de la compassion aux autres, pour pratiquer l'amour du prochain. Ce sont des êtres accomplis que tout le monde estime et même admire. Il ne leur manque qu'une seule chose. Ils n'ont pas la vie parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Ils ont une probité, une gentillesse, une beauté de caractère innée, mais qui n'ont pas été touchés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont de braves citoyens, ce sont des citoyens de ce monde, mais non de bons soldats de Jésus-Christ. Ce sont d'excellents éléments de la société, mais non des membres vivants du corps de Christ. On pourrait les comparer à une très belle peinture ou sculpture, exécutée avec un soin minutieux jusque dans les détails. Les gens se pressent pour admirer ce chef-d'œuvre, mais il n'a absolument aucune vie intérieure. Ce n'est qu'une toile peinte ou un bloc de marbre sculpté, froid et inanimé. Oui, en effet, voyez-vous, de même, il ne manque, il me semble, qu'une seule chose à ces gens-là, à ces braves, à ces nobles. Il leur manque la vie qui est en Jésus-Christ, c'est cela. Que vaut un zéro? Absolument rien. Mais lorsqu'il est précédé d'un 1, cela fait déjà 10. Toutes les vertus d'un homme, s'il n'a pas Jésus-Christ, sont comme une série de zéros et rien d'autre, sans plus, sans aucune valeur. Mais quand on met le chiffre 1 devant, oui, quand on met Jésus-Christ devant, devant ces nombreux zéros, alors là, ils prennent d'un coup une très, très grande valeur. Prions maintenant, chers amis, ensemble. L'Éternel est notre juge. C'est notre Seigneur. Et il y a un peuple puissant qui le glorifie, car tu as fait, ô Dieu trois fois saint, des choses merveilleuses. Aussi confions-nous en l'Éternel à perpétuité, car le rocher des siècles est en l'Éternel notre Dieu. Il abaissera ceux qui habitent dans les lieux élevés. Aussi nous t'avons attendu, ô Éternel, dans le sentier de tes jugements. Et c'est vers ton nom et vers ton souvenir que que tant le désir de notre âme. Tu nous donneras la paix que notre âme te désire pendant la nuit, que notre esprit te cherche le matin. L'Éternel fera entendre sa voix pleine de majesté. Ses lèvres sont remplies d'indignation et ton esprit est comme un torrent débordé. Et malheur aux enfants rebelles qui prennent conseil, mais non pas de lui. Et cependant, l'Éternel attend pour nous faire grâce, oui, et il sera exalté en ayant pitié de nous. L'Éternel est un Dieu juste, heureux donc tous ceux qui s'attendent à lui. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à bientôt à nouveau, car la série est encore longtemps pas terminée. Au revoir, mes très chers amis.